Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
La conférence des évêques de France a un nouveau président, Mgr Georges Pontier, chevêque de Marseille, a été élu ce mercredi. Il succède au cardinal 23. Dans ce magazine, nous vous ferons découvrir cette nouvelle figure à la tête de l'Église de France, Mgr Pontier, qui nous a livré ses premières impressions. La place Saint-Pierre était encore noire de monde pour l'audience générale ce mercredi. Le pape François est revenu sur l'ascension de Jésus. « Jésus est notre avocat et intercède pour nous », a-t-il dit. Dans ce magazine, nous reviendrons aussi sur les migrations, un thème auquel l'Église accorde une grande importance. Nous entendrons Mgr Tomasi, le représentant du Saint-Siège à Genève, nous parler des migrants que le pape a déjà plusieurs fois évoqués ces dernières semaines. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Une nouvelle figure à la tête de l'Église de France, Mgr Georges Pontier, l'archevêque de Marseille, succède à Mgr André 23, qui a effectué deux mandats à la tête de la Conférence des évêques de France. Le nouveau président de la Conférence a été élu ce mercredi par ses pairs, réunis en assemblée plénière. Mgr Pascal Delannoy, l'évêque de Saint-Denis, Mgr Pierre-Marie Carré, l'archevêque de Montpellier, ont par ailleurs été élus vice-présidents de la Conférence des évêques de France. Mgr Pontier est un homme plutôt discret, très apprécié dans son diocèse. Son portrait, signé Bernard de Cotigny.
Né dans le sud-ouest à Lavore, le 1er mai 1943, Georges Pontier est ordonné prêtre en 1966 pour le diocèse d'Albi. En l'élisant à leur tête, les évêques de France ont choisi une personnalité chaleureuse et sociable, marquée par son sud-ouest natal. En 1988, il devient à 44 ans l'un des plus jeunes évêques de France, lorsque Jean-Paul II le nomme à Digne, puis il exercera ses fonctions à la tête du diocèse de Sainte-La Rochelle. Mgr Pontier arrive à Marseille en 2006. Sa découverte de la deuxième ville de France va de pair avec une réalité sociale parfois difficile. Il y découvre la grande pauvreté dans laquelle vivent certains de ses habitants. La cité phocéenne lui permet en tout cas de développer une vision humaniste inspirée du christianisme social et de cultiver le dialogue interreligieux, en particulier avec l'islam. Les jeunes, les pauvres, les immigrés, le cosmopolitisme de Marseille est le laboratoire de son action pastorale et lui assure de nombreux soutiens. Marqué par la spiritualité de Charles de Foucault, ses proches le qualifient comme un homme à la fois spirituel et engagé, ouvert au dialogue et aux questions contemporaines comme la mondialisation. Il y a quelques années, en tant que vice-président de la conférence épiscopale, il avait même participé au pourparlers avec Nicolas Sarkozy sur le dossier de l'immigration. Mgr Pontier succède au cardinal 23 dans un contexte tendu par les conflits sociaux et les polémiques sociétales. Sa voix sera sans nul doute celle de l'apaisement.
Mgr Pontier, qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain, nous l'avons joint quelques heures après son élection. Il revient sur ses années passées à Marseille et nous livre ses premières réactions. Il est au micro d'Hélène Destombes.
C'est une marque de confiance de la part de mes confrères que je ressens profondément, mais qui est aussi du coup un engagement à servir les missions différentes en commun et cette collégialité au sein de notre épiscopat.
Dans quelle mesure votre expérience à Marseille va nourrir en quelque sorte ce nouveau rôle que vous allez avoir ?
La ville de Marseille est une ville intéressante par rapport à la vie de la société chez nous en France, que ce soit sous le mode de l'économie avec une situation marquée par des formes diverses de pauvreté, que ce soit le brassage des populations et donc tout ce qui touche l'interculturel et bien évidemment l'interreligieux. Vous voyez, il y a un ensemble de domaines qui, de fait, à Marseille, on touche du doigt quotidiennement. Et forcément, ça me marque, mais ce n'est pas pour imposer à l'ensemble des évêques ce qui se vit à Marseille.
Vous avez d'ailleurs notamment œuvré beaucoup en faveur du dialogue interreligieux.
C'est sûr que dans une situation comme Marseille, on ne peut pas ne pas œuvrer pour le dialogue interreligieux. Et ce dialogue étant entendu de manière large, c'est-à-dire qu'il est d'abord ce dialogue que je constate à Marseille entre les gens de confessions différentes qui habitent cette ville, qui habitent les mêmes cités, les mêmes quartiers, puisqu'on n'a pas de banlieue chez nous, mais que tout est entre les anciens villages. Et donc ce dialogue au quotidien des gens différents existe. Après, il faut organiser de fait des rencontres entre responsables pour que entre nous se crée une connaissance, une confiance et donc une visibilité aussi du désir que nous avons tous de porter ensemble la bonne marche de la société. Et ensuite restera le niveau plus grand de réflexion théologique ou de rencontre plus spécifique, mais qui, bon, à Marseille est possible parce qu'on a l'Institut des sciences de théologie de religion et puis qu'on a des partenaires juifs et des partenaires musulmans qui ont aussi leur lieu de réflexion et qui nous permettent de nous rencontrer.
Vous avez également une certaine expérience en termes de lien avec le monde politique. Là aussi, de Marseille à Paris, à la tête des évêques de France, ce sera une expérience très utile.
C'est une expérience utile, puis c'est une expérience qui, dans la spécificité française, se joue dans la complémentarité à ce niveau-là entre le rôle de l'archevêque de Paris, qui est situé dans ce pôle très centralisé de notre pays, et puis le président de la conférence. C'est sûr que tous les deux, nous, sur ce point précis des relations avec les pouvoirs publics, nous aurons à collaborer comme c'est la tradition dans ce pays.
Le discours du cardinal 23 à l'ouverture de cette assemblée semblait en quelque sorte une feuille de route. Quels vont être les grands chantiers, les défis que vous allez devoir affronter ?
L'avenir va nous le dire. L'avenir va nous le dire. Et j'y réfléchirai vraiment à partir du 1er juillet avec mes confrères du Conseil permanent.
Dans quel état d'esprit vous préparez-vous à aborder cette nouvelle mission ?
C'est le désir de servir la collégialité entre notre épiscopat pour que chacun puisse se sentir écouté et qu'il y ait une communion entre nous. Et on s'aperçoit comment aujourd'hui la communion d'un épiscopat par lui-même dit beaucoup de choses. Et j'entends mon service comme d'abord celui-là, d'être à l'écoute et au service de la communion entre les évêques étant le président de la conférence.
C'était Mgr Georges Pontier, le nouveau président de la Conférence des évêques de France. La place Saint-Pierre était de nouveau noire de monde ce mercredi à l'occasion de l'audience générale du pape. Lors de sa catéchèse, le pape François a poursuivi son cycle dans le cadre de l'année de la foi et est revenu sur l'ascension de Jésus relatée par l'évangile de Saint-Luc. La montée du Christ au ciel sur le mont des Oliviers, là où il s'est recueilli en prière au moment de sa passion pour être en union profonde avec le Père, nous montre, a dit le pape, que la prière nous donne la grâce d'être fidèles au projet de Dieu. Jésus intercède toujours en notre faveur, a souligné le pape. Il est notre avocat qui nous défend toujours. Quand quelqu'un est convoqué par le juge lors d'un procès, la première chose qu'il fait, c'est d'appeler son avocat. Nous, nous en avons un, a-t-il dit, qui nous défend toujours, qui nous défend face aux tentations du diable, qui nous défend de nous-mêmes et de nos péchés. Le pape François, qui à l'issue de l'audience a prié pour les victimes du séisme qui a frappé mardi l'est de l'Iran et du Pakistan. Pour la deuxième fois en une semaine, la terre a fortement tremblé dans la région. Il s'agit du plus important tremblement de terre depuis un demi-siècle qui a fait déjà des dizaines de victimes. J'ai appris avec tristesse le violent séisme qui a frappé les populations d'Iran et du Pakistan, entraînant mort, souffrance et destruction. Le pape a ainsi déclaré qu'il priait pour les victimes et pour tous ceux qui sont dans la douleur, manifestant sa proximité pour le peuple iranien et pakistanais. Sachez qu'après l'audience générale, le pape François a reçu également l'ambassadeur saoudien en Italie, M. Saleh Mohamed Al-Ghamdi. Ce dernier a transmis au pape un message du roi Abdallah d'Arabie. Comme chaque matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican où il loge, le pape célèbre la messe. Ce mercredi, le Saint-Père était accompagné d'un groupe d'employés du IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, la Banque du Vatican. Et dans son homélie, il a une nouvelle fois tenu des mots forts pour appeler les chrétiens à la responsabilité et se conduire en baptisé. Hélène Détombe.
L'Église n'a pas à jouer le rôle d'une baby-sitter pour les chrétiens, mais doit être une mère. Et c'est pourquoi les chrétiens doivent redécouvrir leur responsabilité de baptiser. Les premiers chrétiens, ajoutait le pape, n'avaient que la force du baptême qui leur donnait ce courage apostolique, cette force de l'esprit, même au milieu des persécutions. Ils ont abandonné leur maison, ont emporté avec eux certainement très peu de choses. Ils n'avaient aucune sécurité, mais ils allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de Dieu. Ces premiers chrétiens sont de simples fidèles, a poursuivi le pape, qui avaient été baptisés depuis un an ou un peu plus peut-être, mais ils avaient le courage d'aller annoncer, a-t-il martelé, avant d'interpeller ses auditeurs. Mais nous, avons-nous cette force? Croyons-nous à cela, au fait que le baptême puisse suffire pour évangéliser? Le pape a ainsi invité à ne pas laisser la grâce du baptême s'enfermer sur elle-même, à ne pas avoir peur de témoigner de la force de l'esprit qui nous pousse vers l'avant. Pour souligner ces propos, François a rappelé les persécutions au Japon au XVIIe siècle, quand les missionnaires catholiques furent chassés et que les communautés chrétiennes restèrent durant 200 ans sans prêtre. À leur retour, les missionnaires trouvèrent toutes les communautés à leur place, tous les fidèles baptisés, tout catéchisés, tout mariés à l'Église, grâce au travail des baptisés.
La COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, a rendu hommage au père Paul Huot-Pleuroux, décédé ce mardi. Né le 5 décembre 1922 près de Besançon, le père Huot-Pleuroux fut secrétaire général de la Conférence des évêques de France de 1971 à 1977, puis devint le premier secrétaire général du Conseil des conférences épiscopales d'Europe de 1980 à 1989. Après la fin de son mandat, il a continué à communiquer l'Europe à travers des rubriques quotidiennes sur le réseau des radios chrétiennes RCF. Les obsèques du père Huot-Pleuroux seront célébrées vendredi matin à Besançon. La Comessée célébrera également une messe à sa mémoire à Bruxelles. Les migrations sont un des phénomènes de la mondialisation qui ne cesse d'interroger, y compris à l'intérieur même de l'Église. Les migrants, on le sait, font souvent la une de l'actualité, surtout lorsqu'il s'agit de parler des drames de l'exil ou des difficiles conditions d'intégration dans les sociétés. La semaine dernière, le pape François avait fait part de son désir de visiter le centre Astalli à Rome, un centre dirigé par les jésuites et qui vient en aide à des milliers de sans-papiers. L'Église est bien souvent la seule structure présente auprès de ces populations, là où l'État a failli. Un colloque était organisé en début de semaine à l'Université pontificale du Latran à Rome, autour du thème « Dialogue interculturel et migration ». Parmi les intervenants, Mgr Silvano Tomasi, le représentant permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève et de l'Organisation internationale des migrants. Il répond à notre confrère de la rédaction italienne, Davide Maggiore.
Dans les premières semaines de son pontificat, le pape François a déjà parlé du trafic des personnes humaines et de l'attention que la communauté chrétienne et la communauté humaine en général doivent porter envers les personnes qui sont obligées par la pauvreté ou par d'autres nécessités à quitter leur pays et quelquefois se mettre dans les mains des personnes qui les exploitent d'une manière déshumaine. Et je crois que dans les phénomènes modernes énormes de la mobilité humaine, les victimes de ce trafic de personnes sont entre les personnes les plus en nécessité. Alors, c'est juste que le Saint-Père se préoccupe d'elles de manière que l'attention qu'il porte vers ces problèmes puisse sensibiliser pas seulement l'opinion publique, mais les États qui doivent prendre la responsabilité de pourvoir des lois qui puissent protéger tout ce monde en mouvement.
Plus en général, quelles ont été les initiatives que l'Église a déjà prises pour contraster ce phénomène?
Depuis longtemps, avant que les États modernes s'occupent de la mobilité humaine, des migrants, des personnes obligés à quitter leur pays, des réfugiés, des personnes qui sont victimes du trafic humain, l'Église a été là avec ces personnes, a donné un témoignage de charité et de protection à travers surtout les communautés religieuses de femmes et d'hommes qui sont dédiées à ce type de service pastoral qui est spécialisé pour ces catégories de personnes. Alors je crois que l'action de l'Église, la sensibilité que le pape François porte pour ces catégories de personnes sera sans doute fructueuse dans les prochains futurs et de manière que on arrivera à améliorer les traités internationaux qui sont déjà approuvés, qui sont déjà acceptés, et améliorer la législation actuelle de manière que la dignité de chaque personne, surtout des femmes et des enfants qui sont victimes de cet esclavage moderne, puisse être soutenue et protégée.
Nommé par Benoît XVI le 21 février, Mgr Ilario Antoniadi, le nouvel archevêque de Tunis, est entré en fonction dimanche dernier, 14 avril. La messe d'intronisation a eu lieu en la cathédrale Saint-Vincent de Paul de Tunis. Pas moins d'une douzaine d'évêques, une cinquantaine de prêtres et des centaines de fidèles étaient venus entourer le nouvel archevêque. L'archidiocèse de Tunis compte environ 20 000 catholiques, des expatriés, des diplomates, mais également des Africains subsahariens, parmi lesquels de nombreux étudiants. Mgr Antoniadi faisait également partie de la délégation du patriarcat latin de Jérusalem, reçue ce lundi par le pape François. Nous avons pu le rencontrer à l'issue de cette audience. Il nous confie ses impressions sur le nouveau souverain pontife, pour qui il avoue avoir une grande estime, et nous parle de ses priorités, prendre connaissance des réalités de son diocèse, car, affirme-t-il, on ne peut évangéliser ce qu'on ne connaît pas. Écoutez-le, il est interrogé par Manuela Affigi.
Tout d'abord, c'était une impression très sentie, très forte. J'avais un grand désir de le connaître parce que depuis le premier moment qu'il est apparu en télévision comme pape, il y a eu quelque chose en moi qui a bougé, il m'a conquis par sa simplicité, par sa bonté, par sa façon de se présenter au monde. Et hier, il s'est montré très, très paternel avec nous et en s'informant de la Tunisie et en me souhaitant les meilleurs souhaits pour mon travail en Tunisie. Ce sont des petits faits, je n'ai pas tardé avec lui, mais qui ont laissé une trace très profonde en moi. Ils ont fait aussi augmenter en moi mon estime envers lui et mon amour envers lui.
Vous venez d'être nommé le nouvel archevêque de Tunis. C'est un pays que vous ne connaissez pas forcément. Est-ce que vous avez quand même une idée de ce que vous allez devoir faire en priorité ?
Mon idée est celle-ci. Comme vous avez dit, je ne connais pas très bien la réalité. J'ai déjà pris contact avec mon vicaire général, qui est là depuis longtemps, et je lui ai demandé tout de suite de prendre contact avec les curés et les paroisses pour que je les puisse visiter. Et c'est ça ma première préoccupation maintenant, visiter chaque prêtre, chaque paroisse, entrer en contact avec elle, de façon de pouvoir me faire une idée claire de la réalité où je vis, étant donné qu'elle est complètement différente de la réalité où je me trouvais avant, 40 ans au Moyen-Orient. Et ceci est mon premier travail que je veux faire. On ne peut pas évangéliser quelqu'un si on ne le connaît pas. Et alors, avant tout, c'est moi qui dois faire les premiers pas, les connaître pour les aimer, les connaître pour les estimer encore plus. Et je compte sur ça, naturellement, sur les prêtres qui sont là, sur leur coopération et leur entente. Et il y a deux jours, j'ai pris possession du diocèse. J'ai été impressionné par la simplicité et la bonté et la profondeur des prêtres qui sont là et leur vie religieuse. Je pense que ça me facilite beaucoup, beaucoup mon travail. Je leur ai demandé de m'accepter comme un frère qui vient faire un chemin vers le Christ, mais tous ensemble, comme évêque pour eux et avec eux dans le même temps. C'est ça que je vais faire au commencement.
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt.